France Bleu 107.1, on est bien ensemble. Roue libre, le Mac Vélo sur France Bleu 107.1.
Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Roue Libre, le seul magazine de la bande FM qui se déplace à la force du mollet et vous parle de vélo pour tous, pour tous les jours. Alors pour m'accompagner au fil de cette aventure, troisième saison du nom, avec un spécialiste du vélo pratique, le temps passe vite, Abel Guggenheim, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Membre du comité directeur de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Aujourd'hui ensemble, Abel, nous accueillerons dans quelques minutes un nouvel invité, nous parlerons de Paris Respire qui prend de l'oxygène, du moins pour cette fin d'été. Nous reviendrons également sur un classement des 10 désagréments rencontrés par les cyclistes ou encore le succès de la voie Paris-Londres. Nous parlerons également d'une aventure un peu particulière signée par un journaliste réalisateur. Il propose un film pas comme les autres, un documentaire « Bikes versus Cars ». C'est donc signé par un Suédois, vous vous en doutez, c'était presque évident. Tout ça, c'est à découvrir dans Roue Libre, le Mac Vélo sur France Bleu 107.1 à Paris. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons être entre vélo et histoire. En mars dernier, nous faisions découvrir une aventure, un projet, celui d'Alain Cuvier, collectionneur, président de l'Association française d'histoire du cycle, entre autres. Il est devenu l'un des acteurs de la réédition cet été du premier voyage à vélo du monde. 15 jours pour rallier Avignon depuis Paris, 14 étapes, je vous en parlais hier. L'arrivée a eu lieu dimanche dernier près d'Avignon, comme prévu. 7 fous du guidon historique qui sont arrivés avec à la clé une conférence internationale de l'histoire du cycle, accompagnée par des fous du guidon, des fous de la pédale. Notre invité d'aujourd'hui n'est autre que l'une d'elles. Isabelle Le Sens, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Journaliste,
bonjour,
blogueuse, Abel. Cycliste. Vous avez suivi de très près cette aventure. Aventure unique en son genre.
Totalement unique. La prochaine a lieu dans 100 ans.
Ah oui, on sera plus là.
Si, moi oui.
Vous nous aurez votre secret, c'est peut-être
le vélo.
Qu'est-ce qui caractérise cette aventure?
Eh bien, c'est la réédition d'un voyage sans être la réédition vraiment de ce voyage. C'est plein de paradoxes, comme souvent les aventures humaines. Ce sont 7 collectionneurs ou historiens qui se sont procurés soit dans leur collection, soit par emprunt des vélocipèdes, c'est-à-dire des vélos d'avant les vélos avec les pédales sur le moyeu. C'est la première fois que l'humanité sait qu'elle peut tenir en équilibre sur deux roues sans poser les pieds par terre. Donc ça, c'est essentiel dans l'avenir de l'humanité, évidemment. Et ce sont des vélos, des véhicules, on va plutôt dire, ou vélocipèdes, qui, évidemment, ont été restaurés, et notamment les roues. Presque toutes les roues étaient neuves, sauf sur 2 vélocipèdes. Mais refaites avec les méthodes de l'époque, évidemment. Et puis, il s'était autorisé de mettre des bandages caoutchouc qui sont, ça ressemble un peu à des joints de fenêtre, un petit peu, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas encore le pneu.
Hein.
Mais à l'époque, ils étaient cerclés de fer. Alors, sur le goudron, sur nos routes et avec la pluie, éventuellement, c'était trop dangereux. Donc là, ils se sont autorisés une entorse. Mais ce qui m'a aussi amusé de constater, c'est qu'ils avaient quasiment tous un porte-bidon moderne en plastique noir, un bidon en plastique, son GPS, qui d'autres son porte-téléphone et choses comme ça. Donc c'était pas des maniaques complets de la reconstitution, contrairement à ce à quoi je m'attendais. Il y a une autre façon de dire que c'était une réédition sans être une reconstitution, c'est que ce voyage a eu lieu sur la route impériale, donc en 1865. La route impériale est devenue une route nationale numéro 7 qui est célèbre pour ses embouteillages et son trafic. Il y a d'ailleurs des tronçons qui sont interdits au vélo désormais et il y a beaucoup de tronçons qui sont quand même, presque tous, l'enfer. Il faut le dire, pour les humains non carrossés, si je peux m'exprimer comme ça, c'est quand même l'enfer.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu être encadré, sécurisé, c'est ça pour vous déplacer?
Alors, en effet, il a certains tronçons, nous avons été bien obligés de les emprunter, et il y avait deux camions suiveurs avec les bagages des vélocipédeurs, un vélocipède de rechange, du matériel, etc. Et puis il y avait une ou deux voitures des épouses. Je suis désolée, c'était pas moi l'épouse qui suivait. Mais à l'inverse, il y a un tronçon notamment dont on nous a parlé de la route nationale 7 qui est devenu un chemin, qui a été complètement abandonné, mais Les frères Olivier, puisqu'il s'agit des deux protagonistes de 1865, l'ont probablement emprunté. Mais ça, on l'a pas essayé de le faire. Donc c'est à la fois une reconstitution et pas tout à fait une reconstitution. Voilà, bon.
Ce premier voyage à vélo du monde a un peu chamboulé l'univers du cycle. Vous dites que c'est la première fois où l'homme se rend compte qu'il peut tenir en équilibre. C'est le début d'une industrie aussi derrière.
Oui, c'est ça. En fait, les frères Olivier et leur ami Georges de la Bouglise ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui un test produit. C'est-à-dire, ils se sont dit, ce truc-là qui vient d'arriver, qui est extraordinaire, dont l'engouement arrive, mais que dans les classes extrêmement aisées, puisque c'était à l'unité, très cher, etc. Est-ce que ça tiendrait sur la route? Est-ce que ça tiendrait sur la longueur? Ils se disent, le mieux, c'est encore de tester. Arriver au Pontet, hein, c'est juste à côté d'Avignon, où se trouvait leur père, directeur d'usine sur le Rhône. Ils disent, bah oui, ça tient. Et donc, ils lancent le premier atelier industriel, plutôt, avec une centaine d'ouvriers tout de même, dans Paris d'ailleurs, avec un magasin de vente. Et c'est donc, en effet, le départ de la multiplication, si je peux dire un petit peu comme ça, du vélo quasiment de série déjà. Mmh. Alors c'est le vélocipède, c'est ensuite le grand bi, c'est ensuite la safety, la bicyclette. Mais tout ça, je pourrais vous raconter, c'est une histoire complexe, amusante et très passionnante, mais longue.
Si cette aventure de reconstitution n'était pas d'être au plus proche de l'histoire, de prendre quelques libertés, quel était l'intérêt de cette aventure?
Alors, pour les participants, les sept fameux, donc je rappelle quand même un Américain, un Canadien, un Allemand, un Japonais et deux Français, j'en suis à six s'il en manque un, bon. Pour eux, c'était un défi. C'était un truc de sportif, finalement.
De sportif et de collectionneur.
Oui, mais leur pratique, la raison pour laquelle ils le faisaient, bon, je les ai interrogés individuellement, c'était relever un défi physique ou d'organisation pour Alain Cuvier, qui m'a dit, pour moi, c'était un enjeu d'organisation, effectivement, d'ailleurs, c'était compliqué à organiser.
Bon, merci en tout cas de nous éclairer sur cette aventure humaine, cette aventure vélocipédique. Isabelle Le Sens, vous restez avec nous sur France Bleu 107.1 à Paris. On va tourner quelques pages de l'histoire et du vélo avec vous. Et juste avant, nous allons tourner ensemble quelques pages de l'actu présente du cycle.
Le journal du vélo.
L'opération Paris Respire, elle gagne du terrain. Isabelle Le Sens va pouvoir nous en parler dans quelques instants. Elle connaît bien cette fermeture des voies sur berge. Fermée aux automobilistes tous les dimanches entre 9h et 17h, les berges sur Seine, berges de la Seine sur la rive droite entre les Tuileries et le premier arrondissement et le pont Henri IV dans le 4e, sont exceptionnellement interdites depuis hier samedi aux automobilistes. Alors officiellement instaurée à titre, je cite, expérimental, cette fermeture jusqu'alors inédite puisque Paris Respire se voulait une opération du dimanche, un avant-goût de ce qui attend les Parisiens à l'été 2016, fermeture des berges aux autos pour les rendre définitivement piétonnes. La préfecture de la police a refusé de donner à la ville l'autorisation de lancer cette piétonnisation tous les samedis. Elle a seulement donné son feu vert donc pour le dernier samedi du mois d'août. J'espère donc que vous en avez profité hier, car selon le succès de l'expérience, la ville espère bien gagner l'idée d'un week-end respire sur les berges. Hier, le journal de bord du site internet cyticle.com a publié un top 10 des problèmes rencontrés par les cyclistes urbains. Des situations aberrantes rencontrées régulièrement par celles et ceux qui roulent au quotidien et autant de freins parfois à la pratique du vélo en ville. En partant de la fin, on retrouve les parkings à vélo occupés par d'autres deux roues, les objets sur la piste cyclable, les insultes gratuites, les voitures et camions un peu trop pressés, les véhicules qui klaxonnent, les piétons pas inquiets, les véhicules qui ouvrent leurs portières, ceux qui tournent sans clignotant, les scooters qui utilisent la piste cyclable et enfin en numéro 1, les voitures garées sur la piste cyclable. Autant de soucis qui, s'ils sont souvent avérés, peuvent réellement handicaper la pratique du vélo en ville et qui pourtant pourraient se solutionner avec quelque chose de très simple, le civisme. Les cyclistes du Paris-Londres pourront bientôt camper dans le Vexin, car si la plupart des cyclotouristes de cette avenue verte sont logés en chambre d'hôte ou gîte, un grand nombre de ces visiteurs manifestent son envie de camper. Ils sont quand même plus de 2000 cyclistes à avoir traversé le Vexin en empruntant la Paris-Londres en juillet, plus de 2300 en juin. Engouement suscité par un itinéraire créé il y a à peine 3 ans qui se confirme. Une véritable chance pour le Vexin qui se trouve face à des problèmes d'hébergement pour accueillir les cyclotouristes venus de loin avec leurs montures. Actuellement, beaucoup affichent très rapidement complet et le seul camping sur l'itinéraire est fermé pour la saison. Du coup, des dossiers soutenus par le parc naturel du Vexin sont en cours d'élaboration pour créer des campings chez l'habitant ou à la ferme. Ainsi, entre 3 et 5 projets de ce type pourraient voir le jour au printemps prochain. Preuve, s'il en fallait une, que le vélotourisme est une véritable source d'économie. Isabelle Le Sens, journaliste, blogueuse, cycliste, des sujets que vous suivez quand même d'assez près, que vous inspirent ces quelques actualités?
Les trois sont très intéressantes.
Oui, on peut prendre les trois en haletant.
On a le temps de,
on a le temps de revenir sur les trois. Commençons par peut-être sur les berges de Seine.
Alors j'allais proposer de prendre les deux premières en même temps, à savoir que je les résume. Donc il s'agit en effet des voies express sur Seine et des obstacles à la progression des cyclistes. Et dans les deux cas, je le résume par la notion de fluidité. Mmh. Et en effet, le sentiment de sécurité et la fluidité du trafic à vélo sont, avec le stationnement, les trois clés, je dirais, de l'augmentation du nombre et de la pratique et de l'augmentation du nombre de kilomètres parcourus. D'accord. Par chaque trajet, etc. Donc, dans les deux cas, c'est cette notion donc de fluidité. Alors, en ce qui concerne les voies express, en 1996, c'est 96 ?
Non.
94, je ne sais jamais.
C'est pas comme si vous étiez derrière, oui. À l'époque. Oui, Abel.
Oui, c'est plus simple que je le dise quand même, parce que on va mettre à rude épreuve la modestie d'Isabelle, parce que elle, à l'époque, en 1994, elle travaillait au cabinet du ministre de l'Environnement, qui était Michel Barnier, et c'est elle qui a proposé à Michel Barnier de réserver aux piétons et aux cyclistes la voie sur berge le 10 juillet 1994. Ça a été recommencé le 30 novembre de la même année et c'est devenu régulier à partir de l'été 1995.
Voilà.
Bon voilà, ma modestie, on a pris un coup bien sûr, mais à part ça, ce qui était frappant, c'est qu'il n'y avait quasiment que des cyclistes à l'époque qui l'utilisaient. Progressivement ensuite, les rollers sont apparus et maintenant, les piétons utilisent largement ces lieux. Mais ce qu'il me plaît aussi de rappeler tout de même, c'est que dans cette opération de 1994, donc la voie rive droite était en entier, c'est-à-dire depuis l'entrée par le bois de Boulogne, ça passait devant la maison de la radio notamment, et ça continuait, et là, jusqu'à l'autre bout, jusqu'à Bercy. Et là, ça avait un effet majeur de drainage, si je puis parler ainsi, de tout le nord, d'une bonne partie du nord de Paris, en tout cas, qui pouvait se rabattre et ouest de Paris sur cet axe-là. Et c'est très regrettable qu'il n'y ait pas ce morceau-là avec, vraiment. Et
pour terminer avec ces réactions sur l'actualité, Paris-Londres-Paris, itinéraire cyclable, incontournable.
Alors incontournable parce que effectivement très tentant, le mot Londres fait épopée tout de suite, évidemment.
Et Paris aussi, ça donne envie. Aussi,
oui,
j'imagine.
Il se trouve que la partie londonienne, Grande-Bretagne, a une réputation encore plus mauvaise
que celle
de l'Île-de-France. Mmh. Et ça, tous les voyageurs qui ont osé le faire le disent, c'est effrayant. Finalement, ils prennent le train.
C'est qu'après avoir pris le ferry entre Dieppe et Brighton, on est malade, du coup.
Non, pas du tout, pas du tout. C'est que c'est pas du tout aménagé, que c'est pire encore qu'en Île-de-France. Et quant à l'Île-de-France, quant à la France. On conseille communément aux gens de prendre le train jusqu'à Cergy-Pontoise parce que le début en Île-de-France n'est pas encore fait, c'est ni fait ni à faire, c'est un parcours d'obstacles. Alors les campings dans le Vexin, c'est évidemment une très bonne idée, ça manque effectivement d'hébergement. Je me demande juste si c'est pas un peu trop près de Cergy-Pontoise, parce que quand vous êtes à Cergy-le-Haut, hop, vous basculez dans le Vexin, vous y êtes tout de suite. Hop, c'est la fin de l'Île-de-France et juste après, ça devient tout à fait agréable.
Bon, voilà, réflexion qui est lancée. Allez, c'est l'heure d'ouvrir notre page Culture Vélo.
Roue libre, le Mac Vélo sur France 207.1.
Culture Vélo ce dimanche autour d'un documentaire suédois qui tourne depuis quelques mois déjà dans de nombreux festivals avec des débats, profite de quelques projections. Du coup, son nom, Bikes versus Car, les vélos contre les voitures. Documentaire de Fredrik Gerten qui sera projeté à l'Institut suédois à Paris dans 15 jours. On en reparlera. Rencontré par nos confrères de Métro au Canada, le journaliste et cinéaste suédois a répondu à quelques questions. Il expliquait notamment que faire un film pour dire à quel point, je cite, le vélo est fantastique aurait été ennuyant. C'est pour ça qu'il s'est attaqué dans Bikes versus Car aux raisons qui ont fait des villes des lieux sous l'emprise de l'automobile, une réalité qui serait toutefois en train de changer. Bande annonce. Donc, pour les 10 prochaines années, je dirais, la vente de voitures est un très bon marché.
1 milliard de voitures supplémentaires dans la prochaine décennie. C'est un grand désastre. C'est complètement inutile d'avoir une voiture. Vous ne pouvez aller nulle part, vous êtes coincé dans les bouchons.
Le marché automobile voulait désespérément Los Angeles. General Motors, à travers les compagnies de Shell, a acheté les lignes de bus. Ils ont petit à petit pris le contrôle du système de transport en commun et l'ont éliminé. Les cyclistes sont les emmerdeurs pour les automobilistes. Mesdames et messieurs, la guerre contre les voitures s'arrête aujourd'hui. Les routes sont construites pour les bus, les voitures et les camions, mais pas pour les cyclistes. Une piste cyclable sur la route, c'est comme nager avec des requins. Tôt ou tard,
on se fait mordre. Mais au final, c'est toujours la faute du cycliste.
Ghost bike.
Le ghost bike, le vélo fantôme, c'est un signe pour indiquer qu'une personne est morte ici, qu'une personne a été assassinée. Ceci n'est pas une guerre, c'est une ville. On devrait pouvoir vivre en paix tous ensemble.
On doit arrêter d'augmenter l'espace pour les voitures. J'aimerais voir moins de voies pour les voitures. J'adore les vélos et je déteste conduire. Donc, je ne devrais vraiment pas vivre à Los Angeles. Je ne déteste pas les voitures. J'aime les voyages en voiture, autant que n'importe qui. Un voyage sans obstacle, lancé comme une flèche à toute vitesse dans les virages. Est-ce qu'on ressent un vélo, mais pas en voiture? C'est peut-être ce que le marketing automobile veut nous faire ressentir.
C'est possible avec une ville pro-cycliste. São Paulo pourrait devenir comme Copenhague.
Que a vida pode ser bem melhor, pode ser mais
simples. C'est tellement plus simple, une meilleure vie.
Voilà, un film qui suscite automatiquement le débat, Bikes versus Car, déjà rien que le titre, Vélo contre voiture, documentaire de Frédéric Garton qui sera projeté à l'Institut suédois à Paris dans 15 jours, le samedi 12 septembre 2015 à 21h. Isabelle Le Sens, Abel Guggenheim, j'imagine que vous y serez l'un et l'autre, hein, Abel Guggenheim.
C'est dans mon agenda, oui. Oui.
Moi je serai au premier rang.
Mais qu'est-ce que vous attendez d'un film comme cela? Un documentaire comme cela.
Peut-être des arguments complémentaires. Bon, je doute que j'apprenne grand-chose malgré tout. Enfin, en tout cas, les extraits-là, je ne peux pas dire que j'ai appris quelque chose. Mais peut-être des argumentaires, peut-être un peu plus de désespoir aussi, j'avoue. Parce que je me suis rendu compte, par exemple, pendant ce voyage, que les participants...
Le voyage à vélo, la constitution du premier voyage
vélocipèdes,
à vélo.
Des vélocipèdes, oui. Que les participants se plaignaient beaucoup du trafic et du danger, mais pour autant ne faisaient pas le pas de contester la place de la voiture. Ça restait au niveau de la gêne, mais ça ne remettait pas en cause le système. Finalement, c'était un peu troublant et je ne pouvais guère qu'enregistrer leurs réactions qui étaient les mêmes que celle des cyclistes urbains ou quoi, mais sans la démarche qui allait avec. Enfin.
Abel Guggenheim, c'est un signe positif, ce genre de documentaire?
Oui, absolument. Vous savez, ça fait maintenant 2 ans qu'on fait cette émission, et elle est positive résolument, mais c'est vrai qu'il nous arrive de faire observer que si on veut que le vélo se développe, il faudra forcément que ce soit au détriment de la place de l'automobile. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait moins d'automobiles si on veut qu'il y ait plus de vélos. Et de temps en temps, alors qu'on s'efforce d'avoir un aspect positif, ça nous arrive aussi d'avoir un discours qui remet en cause la place de l'automobile.
Bikes versus car, donc.
Roue libre, le Mac Vélo sur France Bleu 107.1.
Nous sommes avec Isabelle Le Sens, journaliste, blogueuse, cycliste. Elle a suivi de près l'aventure de la réédition cet été du premier voyage à vélo du monde. Elle nous en parle encore un peu sur France Bleu 107.1 à Paris. Isabelle, quelles sont les retombées? Quelle est la retombée qu'a eu ce voyage?
Il y a eu, au fur et à mesure que nous avancions vers le sud, donc, la presse locale était de plus en plus présente, notamment parce qu'elle lisait les confrères en amont. Alors ça, c'est une chose tout à fait intéressante. Il y a eu beaucoup de presse, hein, finalement, tout le long. Et puis, de même, on peut dire que plus on avançait vers le sud, plus les mairies se sont mobilisées pour nous accueillir, y compris même, par exemple, à Gilonnet, petite bourgade, quoi, vraiment,
si
où la correspondance de presse était aussi adjointe au maire. Et finalement, ils ont, la veille, décidé de nous accueillir. Ça a été un accueil fantastique. Et alors, dans les petites communes, c'est très amusant parce qu'ils envoient un mail à tous ceux des citoyens dont ils ont le mail. Et résultat, on est accueilli par 500 000 personnes,
ah oui,
etc. Et ça s'est produit de nombreuses fois. Donc ça, c'était... Voilà ce qui est retombé dans l'immédiat, en tout cas.
À l'issue de ce voyage, s'ouvrait donc la 26e conférence internationale de l'histoire du cycle. Qu'est-ce qu'il s'est raconté et à quoi ça sert?
Alors, à quoi sert une conférence d'histoire du cycle? Ça sert à couper les cheveux en 4, bien sûr. Ça sert, mais en même temps, c'est curieux parce que, par exemple, moi, j'ai suivi les 3 donc qui ont eu lieu en France. On en est à la 26e conférence, hein. Et bon, il y a d'abord celle-ci a fait un succès phénoménal. Il y avait 75 participants.
D'accord.
Donc c'est dire déjà que c'est assez confidentiel.
Ouais, oui.
Les 2/3 des orateurs sont des chercheurs retraités.
D'accord.
Mais là, il y avait quand même 2 jeunes qui ont des thésards, qui ont fait des présentations. Donc c'est intéressant, hein. François Dubert et Una Brogan, bon, très bien, c'était tout à fait intéressant en plus ce qu'ils ont donné. Mais alors, à quoi ça sert?
La connaissance de l'histoire du cycle, indispensable à l'écriture de son futur?
Oui, en gros, c'est pour faire des confitures. Oui, non, bien sûr, vous exagérez quand même.
Non, mais
je vais vous dire en gros ce qui s'est dit. Non, mais c'est à la fois passionnant, mais quelquefois très très petit. Mais il faut bien passer par le tout petit pour faire des généralisations après. Donc j'ai rien contre. Mais par exemple, il y a eu un tas de choses sur les aspects techniques. Bon, et par exemple, j'ai appris que les changements de vitesse intégrés sans dérailleur, mais avec des mécanismes, ça existe depuis le début et que c'était dans le pédalier. Bon, et alors on nous en a montré toute une quantité en détail, etc. Ça s'appelait la boîte de pédalier à engrenage. Bon, il y a aussi les histoires de vélo à voile. Bon, tout un tas de trucs. Les compteurs de vélo même étaient inventés de façon mécanique par des spirales, enfin tout un tas de choses.
Passionnant, une fois encore, la demi-heure s'est égrenée à une vitesse folle. C'est pas Abel Guggenheim qui va dire le contraire, j'imagine bien. Isabelle Le Sens, c'est la rentrée. Qu'attendez-vous pour le vélo cette année en 10 secondes
Je voudrais bien qu'on ait des réseaux express vélo qui se concrétisent réellement, comme c'est annoncé sur la ville de Paris. Ça serait un signe fort pour la France entière.
Des rêves, c'est ça?
Rêvons.
Oui. Rêvons ensemble. Rêve. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui sur France Bleu 107.1 à Paris. Abel Guggenheim, on se retrouve le week-end prochain.
Oui, moi, mon rêve sera plus modeste, c'est qu'on continue à faire cette belle émission.
Bah, jusqu'en juin, déjà. Théoriquement, on est sauvés. On ne sait jamais. Roue Libre est à réécouter sur FranceBleu.fr et en podcast naturellement. Rendez-vous samedi et dimanche prochain.